Merci d'écouter RFI, il est 10h à Paris, 9h à Kinshasa, 8h en temps universel. Bonjour, bienvenue. Dans 10 minutes, vous avez la parole, vos questions sur l'actualité et vos témoignages dans 40 minutes après les importantes inondations à Kinshasa, capitale de la RDC. Vous êtes concerné, vous avez donc la parole ce matin. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Et au menu de ce journal, des négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran. Une réunion aura lieu samedi. Pas de négociation par contre entre Washington et Pékin, prévient Trump. Ses droits de douane continuent à ajouter les marchés malgré un large rebond, c'est vrai, sur les bourses asiatiques après un lundi noir. On va parler aussi de cette visite tout à l'heure à El Arish, considérée comme un avant-poste égyptien pour l'acheminement du soutien humanitaire vers Gaza. Le président français Emmanuel Macron s'y rend avec son homologue égyptien. Et puis le ton qui continue de monter entre Alger et Bamako après ce drone malien abattu par l'Algérie. Donald Trump aurait-il parlé un petit peu trop vite? En tout cas, le président américain a pris tout le monde par surprise hier en annonçant que son pays était en discussion directe avec l'Iran sur son programme nucléaire, évoquant aussi une réunion à très haut niveau samedi. Une réunion, oui, ça Téhéran confirme. Le problème, Siavosh Gazi, c'est le terme de direct. Là, c'est faux, selon Téhéran.
Abbas Araghchi a affirmé que la rencontre au plus haut niveau aura lieu samedi à Oman, mais de manière indirecte. Selon certains médias iraniens, le ministre des Affaires étrangères pourrait se rendre personnellement à Oman pour diriger les négociations. Parallèlement à cette discussion avec les États-Unis, une rencontre doit avoir lieu aujourd'hui même à Moscou avec la Chine et la Russie, qui avaient participé à l'accord de 2015. De même, une autre rencontre est prévue avec les Européens. Toute la question est de savoir quelles seront les demandes américaines. Est-ce que Washington va demander l'arrêt des programmes nucléaires mais aussi balistiques de Téhéran? Dans ce cas, l'Iran a déjà fait savoir qu'il n'acceptera pas de telles exigences. C'est en tout cas ce qu'a demandé le Premier ministre israélien en citant l'exemple libyen en 2003. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région, notamment en envoyant une dizaine de bombardiers B-2 capables de détruire les installations nucléaires iraniennes enfouies sous la montagne. De même, le président Trump a multiplié les sanctions contre l'Iran depuis son arrivée au pouvoir, ce qui rend difficile les nouvelles négociations. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
Et qu'il soit direct ou indirect, la Chine appelle ce matin les États-Unis à de la sincérité dans ses pourparlers. C'est visiblement la moindre des choses selon Pékin de la part d'un pays, je cite, qui s'est unilatéralement retiré de l'accord de Vienne et qui a provoqué la situation actuelle. Une petite invective, une de plus, alors que les deux pays sont à couteau tiré depuis que Donald Trump a annoncé l'imposition de nouveaux droits de douane. Ils sont lourds pour de nombreux pays, très lourds pour la Chine, 54% quand on additionne toutes les annonces de ces dernières semaines, et ça pourrait même atteindre les 104%, prévient le président américain, si jamais la Chine mettait ses menaces de réplique à exécution. Du chantage, dénonce Pékin. Cette surenchère, elle n'est pas de nature à calmer les marchés asiatiques qui s'affolent depuis quelques jours. Il faut dire que les pays d'Asie vont devoir faire face à des tarifs plus élevés que ceux appliqués à d'autres régions du monde. Les bourses s'affolent, mais un petit peu moins qu'hier quand même. Tokyo, notamment, a rebondi de 6% ce matin après la chute vertigineuse d'hier. Mais impossible de dire si la tendance va se confirmer. Correspondance à Tokyo de Frédéric Charles.
Donald Trump a réservé à l'Asie ses droits de douane les plus prohibitifs. Aujourd'hui, les bourses en Asie veulent croire qu'il est possible d'obtenir des concessions du président américain. Le Japon a envoyé une équipe de haut niveau à Washington pour négocier. Donald Trump a ordonné un réexamen du rachat de US Steel par Nippon Steel, le géant japonais de l'acier. Le président américain ne serait donc pas aussi extrémiste dans sa volonté de repositionner les États-Unis dans le commerce mondial. Le patron d'un fabricant de machines-outils à Tokyo n'y croit pas. La Chine est plus prévisible que les États-Unis. Le commerce du Japon avec la Chine est plus important que celui avec les États-Unis, dit-il. Les entreprises japonaises ont donc intérêt à se rapprocher de la Chine. Les analystes de la plateforme Smart Karma, centrée sur les marchés en Asie, accueillent ce rebond des bourses avec scepticisme. À commencer par Nicolas Barat. Les corrections boursières sont déjà importantes, moins 20%, et impliquent une récession des bénéfices, dit-il. Une baisse de 15% des bénéfices sur des multiples de valorisation typiques en période de récession implique une nouvelle baisse de 20% selon l'analyste de Smart Karma. Frédéric Charles, Tokyo, et rêve.
Une nouvelle nuit meurtrière à Gaza. Selon la défense civile locale, 19 personnes ont été tuées depuis hier soir après des frappes israéliennes. Des enfants font partie des victimes. 5 d'entre eux ont notamment péri dans une attaque contre leur maison à Deir el-Balah, dans le centre de l'enclave Gaza, qui, une fois que la guerre sera terminée, devra dépendre uniquement d'une gouvernance par une autorité palestinienne renforcée, c'est-à-dire sans le Hamas. Déclaration hier lors d'un sommet tripartite au Caire entre le président français Emmanuel Macron, son homologue égyptien Abdel Fattah Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie. Ils ont tous les trois plaidé pour un cessez-le-feu dans l'enclave. Et Emmanuel Macron ne quitte pas l'Égypte tout de suite. Non, aujourd'hui, il se rend à El Arish, une ville portuaire du Sinaï, proche du terminal de Rafah. Une ville considérée comme un avant-poste égyptien pour l'acheminement du soutien humanitaire à Gaza. L'occasion d'envoyer un message sur la situation dramatique dans laquelle se trouve la population. Valérie Gasse est notre envoyée spéciale en Égypte.
À El Arish, Emmanuel Macron veut parler de l'urgence humanitaire dans laquelle se trouvent les Palestiniens de Gaza, accentué depuis un mois avec la reprise des frappes israéliennes et l'arrêt des livraisons d'aide. Emmanuel Macron espère marquer les esprits puisque c'est, selon l'Élysée, la première fois qu'un chef d'État occidental se rend dans cette ville, d'autant qu'il sera accompagné d'Abdel Fattah al-Sissi, une manière de marquer aussi la coopération entre les deux pays. Emmanuel Macron s'en est réjoui.
Merci de nous accueillir demain à La Riche et je suis très heureux d'être à vos côtés dans cet avant-poste du soutien humanitaire aux populations civiles gazaouis.
La nécessité d'un rétablissement immédiat de l'acheminement de l'aide humanitaire, c'est un des sujets abordés au cours d'un entretien téléphonique avec Donald Trump organisé par Emmanuel Macron lundi après le sommet trilatéral en présence du roi de Jordanie. Comme la question des moyens de sécuriser un cessez-le-feu, de rétablir la sécurité et mettre en œuvre la solution à deux États, Emmanuel Macron veut poser des jalons.
Seule la réponse politique permettra d'assurer la stabilité et la sécurité à Gaza et dans toute la région. Et c'est en ce sens que nous allons œuvrer, c'est-à-dire dans la perspective de la conférence internationale pour les deux États, que la France coprésidera dans quelques mois avec l'Arabie Saoudite.
Un volontarisme qui se heurte à la réalité du terrain et l'opposition de l'État hébreu. Valérie Gasse, Le Caire, RFI.
Et en Israël, une petite demi-heure seulement ce matin pour une audience publique de la Cour suprême, une audience sur le renvoi du chef du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure. Elle a été fortement perturbée, marquée par des échanges houleux entre l'opposition et les partisans du gouvernement. Le président de la Cour a donc ordonné une suspension. L'audience vient à peine de reprendre, mais cette fois sans public. Ronen Bar avait été limogé de son poste à la tête du Shin Bet, décision elle-même suspendue par la justice puisque 5 recours ont été déposés. L'opposition dénonce toujours une dérive autocratique du pouvoir. Le ton continue de monter entre Alger et Bamako une semaine après la destruction en pleine nuit d'un drone malien par l'Algérie. C'était à Tinzawaten, à la frontière entre les deux pays. En représailles, Bamako, mais aussi ses alliés nigériens et burkinabés ont annoncé rappeler leurs ambassadeurs en Algérie. Ils accusent Alger d'être un exportateur de terrorisme. Alger réplique à son tour et dénonce des allégations mensongères servant, je cite, de dérivatif à l'échec du projet putschiste malien. Les autorités algériennes ne nient pas avoir détruit ce drone, mais elles disent, contrairement à ce qu'affirme Bamako, qu'il y a bien eu intrusion du drone malien sur leur territoire et assurent même que c'était déjà la troisième fois en quelques mois. Alors le ton, je le disais, continue de monter. Alger et Bamako se ferment mutuellement leur espace aérien respectif, mais pas de dimension militaire à ce stade, David Bachet.
Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis, avertissait Abdoulaye Maïga en septembre dernier. À la tribune des Nations Unies, l'actuel Premier ministre malien s'adressait déjà à l'Algérie. S'agissant du drone abattu à Tinzawaten, la menace n'a pas été mise à exécution. Si l'avenir reste imprévisible, les chercheurs sahéliens et algériens joints par RFI ne croient pas que le conflit puisse prendre une dimension militaire. La supériorité, en tout cas supposée, de l'armée algérienne est un argument largement partagé. Le partenariat des deux pays avec la Russie, alliée de l'Algérie comme du Mali, est également cité comme une limite. Les observateurs décryptent les formules agressives des deux camps, mais relèvent une forme de retenue dans l'escalade. Le Mali quitte le CEMOC, ce comité d'état-major conjoint est décrit comme une coquille vide, jamais opérationnelle. Une plainte devant les instances internationales, pas de quoi faire davantage frémir Alger. Un chercheur malien estime cependant que Bamako garde des munitions, rupture diplomatique, reconnaissance du Sahara occidental marocain par exemple. Le feuilleton n'est pas terminé, prédit cette source. Quelques heures plus tard, Alger et Bamako se fermaient mutuellement leur espace aérien.
Précision de David Bachet. Et puis reprise de la Ligue des champions de football. Ce soir est le début des quarts de finale. Allez, le Bayern Munich accueille l'Inter Milan tandis qu'Arsenal reçoit le Real Madrid. Coup d'envoi pour ces deux matchs à 19h en en temps universel. Mais pour l'heure, c'est Appel sur l'actualité avec vous, Juan Gomez.
Merci, et les auditeurs de RFI, bien évidemment. Bonne journée, Gaëtan Planet. Il est 8h10 en temps universel.